l'écoute de RFI. 20h ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir. Romain Ouzoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Christophe Pagé.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une ce soir, l'attente des nouveaux droits de douane de Donald Trump.
Oui, des droits de douane mondiaux que le président américain doit annoncer dans 2 heures. C'est le jour de la libération en Amérique, a déjà claironné Donald Trump sur son réseau Truth Social. Réponse des démocrates, ce n'est pas le jour de la libération, c'est le jour de la récession. On retrouve notre correspondant à Washington au début de ce journal.
Autre grand titre, Benjamin Netanyahou qui est en Hongrie pour 3 jours.
Le premier ministre israélien fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI, mais le président hongrois, Viktor Orban, a déjà fait comprendre qu'il n'y aurait pas d'arrestation. Et puis en France, le Rassemblement national est satisfait. Le procès en appel demandé par Marine Le Pen se tiendra l'an prochain, ce qui lui laisse une porte ouverte pour la présidentielle de 2027.
Et puis après ce grand journal du soir, Christophe Pagé, nous évoquerons toutes les questions qui se posent 2 jours après la condamnation de Marine Le Pen. Le débat est vif actuellement concernant l'indépendance de la justice en France. Nous appellerons nos collègues du Figaro qui consacrent leur dossier de demain jeudi à cette actualité.
Ce sera 22h heure de Paris, 20h en temps universel et 16h à Washington. Donald Trump va annoncer le détail des nouveaux droits de douane mondiaux qu'il a promis, histoire de relever au maximum les curseurs de la guerre commerciale qu'il a lancée. Une guerre qui va selon lui inaugurer un âge d'or de l'Amérique, mais qui pourrait coûter cher aux ménages américains, d'autant que certains s'organisent. Écoutez ce qu'en disait hier Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.
Les droits de douane ne feront qu'alimenter l'inflation, ce qui est exactement le contraire de ce que nous voulions obtenir. J'ai déjà pris contact avec nos chefs d'État et de gouvernement sur les prochaines étapes. Nous évaluerons très attentivement les annonces afin de calibrer notre réponse. Notre objectif est de parvenir à une solution négociée. Mais bien sûr, si cela s'avère nécessaire, nous protégerons nos intérêts, nos citoyens et nos entreprises.
Ursula von der Leyen, des propos recueillis par Romain Lemaresquier. Le détail de ces nouveaux droits, on le disait, ce sera dans 2 heures. En attendant, nous retrouvons notre correspondant à Washington, Guillaume Nodin. Guillaume, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous.
Et Donald Trump veut faire de cette annonce un moment important.
Oui, vous l'avez dit, il parle du jour de la libération de l'Amérique, libération dans son esprit des pratiques déloyales des partenaires commerciaux des États-Unis qui profitent de son pays depuis des décennies. C'est par ces pratiques, tarifaires ou non, qu'il explique le déficit commercial américain avec les principaux partenaires du pays. Ce qu'il veut faire, c'est un rééquilibrage des pratiques commerciales au profit de son pays. L'événement qui va se dérouler dans le Jardin des Roses à la Maison-Blanche dans 2 heures s'appelle d'ailleurs « Make America Wealthy Again », c'est-à-dire « rendre l'Amérique riche à nouveau ».
Alors pour y arriver, que va faire Donald Trump? Que va-t-il annoncer?
Alors c'est toute la question. Il y a quelques semaines, quand il a commencé à dévoiler ses projets, c'était en février, il parlait de droits de douane réciproques, c'est-à-dire appliquer aux produits importés de certains pays le même montant de droits de douane que ces pays appliquent aux produits américains. C'est l'approche de plusieurs membres de son gouvernement, comme le secrétaire au Trésor Scott Bessent ou son secrétaire au commerce Howard Lutnick. Mais plus récemment, dans les derniers jours, Donald Trump s'est montré favorable à une approche globale qui appliquerait une surtaxe à tous les pays autour de 20%. Et selon les informations du Wall Street Journal, très récemment, un projet alternatif de même nature, mais avec un taux moins élevé, autour de 10%, aurait été préparé. Personne ne semble savoir vraiment le choix que va faire Donald Trump, mais selon la porte-parole de la Maison-Blanche, c'est un projet très bien ficelé, avec une équipe de conseillers de haut niveau, et c'est un projet qui va fonctionner.
Et si c'est précisé, c'est parce qu'il y a des doutes sur l'efficacité de la chose.
Oui, de nombreux économistes mettent en garde contre un risque inflationniste. Ils pensent qu'au final, les importateurs vont répercuter le surcoût et que ce sont les consommateurs américains qui vont payer la facture. Pendant la campagne, Donald Trump affirmait que les exportateurs étrangers paieraient le surcoût pour avoir le privilège de vendre leurs marchandises aux États-Unis. Les économistes soulignent aussi un risque plus élevé de récession économique, puisque ce sont les Américains les moins riches qui seront les plus touchés par ces mesures et qui vont donc consommer moins. La Maison-Blanche rappelle que lors du premier mandat Trump, il y avait des prévisions similaires qui ne s'étaient pas réalisées. Elle affirme aussi que cela va encourager la relocalisation industrielle aux États-Unis après une possible période d'adaptation.
Et ceux qui s'adaptent, Guillaume, pour l'instant, ce sont les marchés financiers.
Oui, parce qu'en 10 semaines aux affaires, Donald Trump a déjà imposé des droits de douane sur l'aluminium, sur l'acier, sur les produits chinois, mexicains ou canadiens, au terme d'allers-retours difficiles à suivre, qui ont créé ce que les investisseurs détestent le plus, de l'incertitude. Résultat, la bourse de New York a perdu près de 10% depuis le début du mandat. Elle est actuellement un peu fébrile.
Merci Guillaume Nodin, en direct de Washington.
Et on va prendre à présent la direction de la Birmanie, où le bilan du séisme qui s'est produit vendredi dernier est passé à 2900 morts.
Oui, mais le travail des secouristes romains est rendu quasi impossible par le conflit meurtrier qui oppose la junte militaire au pouvoir aux armées ethniques rebelles. Carole Lizou, la junte vient de faire une annonce qui change la donne. C'est un cessez-le-feu provisoire pour permettre aux équipes humanitaires de travailler.
Oui, c'est une déclaration qui était très attendue, réclamée par plusieurs groupes armés dès le lendemain du séisme et qui vient répondre à une initiative d'un cessez-le-feu unilatéral décidé mardi 1er avril par certains groupes rebelles dans les zones les plus affectées. Le conflit en Birmanie n'a jamais cessé. Les frappes aériennes avaient repris dès les premières heures après le tremblement de terre. Jusqu'ici, dans l'état du conflit ouvert entre la junte et les armées ethniques, le travail des secouristes n'était tout simplement pas possible. Des soldats birmans ont d'ailleurs un peu plus tôt tiré sur un convoi de la Croix-Rouge chinoise parce qu'il n'avait pas été notifié de son passage. Du côté de la junte, on craint que les armées rebelles, sous couverture d'actions humanitaires, n'essaient d'étendre leur position. Du côté des rebelles, l'inquiétude est que la junte profite de l'après-séisme pour reprendre le contrôle des axes principaux de transport. Chez les humanitaires, cette annonce de cessez-le-feu est un soulagement qui va permettre, espère-t-il, de débloquer la situation de nombreuses petites organisations, pour l'instant toujours bloquées à Bangkok ou à Rangoon. Carole Izou, Jadel Khoury, Bangkok, RFI.
L'actualité ce soir au Proche-Orient à présent, et Israël qui annonce qu'elle va s'emparer de larges zones de la bande de Gaza.
Pour les intégrer dans les zones de sécurité d'Israël. Et que pour cela, ces opérations militaires vont être étendues. Une réaction à l'étranger, celle de Londres, qui dit ne pas soutenir l'extension des opérations militaires israéliennes. La poursuite des combats et les fusions de sang n'est dans l'intérêt de personne. Cette annonce intervient alors qu'un autre ministre, celui de la Sécurité nationale, le ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir, s'est rendu sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, un secteur occupé et annexé par Israël. Le Hamas parle de provocation et dénonce une dangereuse escalade. Quant au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il arrive ce soir en Hongrie pour 3 jours. Et ce, malgré un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. La Hongrie est membre fondateur de la CPI, mais son président Viktor Orban a clairement fait comprendre qu'il n'arrêterait pas le premier ministre israélien. À Budapest, Florence Labrouillère.
Dès que le mandat d'arrêt a été lancé contre Benjamin Netanyahou, Viktor Orban a invité son homologue en Hongrie. Un pied de nez à la Cour pénale internationale, que la Hongrie a pourtant reconnue. En principe, les autorités hongroises sont censées arrêter toute personne sous le coup d'un mandat d'arrêt. Mais Viktor Orban a jugé que la décision de la Cour était inacceptable et que c'était une honte. À Budapest, Benjamin Netanyahou pourra donc dormir sur ses deux oreilles. Les deux politiciens nationalistes s'entendent bien. Leurs deux partis ont suivi la même trajectoire, autrefois libéraux, aujourd'hui d'extrême droite. Viktor Orban est actuellement isolé en Europe en raison de ses violations de l'état de droit et de son rapprochement avec la Russie. En recevant Netanyahou, il sort de son isolement et s'affirme sur la scène internationale. Quant au premier ministre israélien, en venant en Hongrie, il montre qu'il a des appuis en Europe. Il compte s'assurer du soutien de Viktor Orban au plan de Donald Trump, un plan qui prévoit de transformer le territoire de Gaza en une sorte de Côte d'Azur vidée de ses habitants. Florence Labrouillère, Budapest, RFI.
L'île de Chypre est toujours divisée entre la République de Chypre, reconnue internationalement, et la République turque de Chypre Nord, reconnue par la seule Turquie. Ce mercredi, l'ONU a indiqué que les dirigeants chypriotes grecs et chypriotes turcs se sont mis d'accord pour poursuivre un processus de construction de la confiance visant à relancer les efforts de réunification de l'île. Selon l'ONU, les deux parties vont notamment partager des informations pour travailler sur le déminage. Stop à tous les achats, supermarchés, courses en ligne, restaurants, carburants, cafés, n'achetez rien. C'est l'appel qu'a lancé hier pour ce mercredi le principal parti d'opposition turque, le Parti Républicain du Peuple, qui relayait en fait un appel lancé par les étudiants. Car l'objectif, c'est justement de protester contre la détention d'étudiants qui ont manifesté pour soutenir le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, en prison depuis le 19 mars. Plus de 300 étudiants ont été placés en détention provisoire depuis le début des manifestations. Le reportage à Istanbul de nos envoyés spéciaux Daniel Valo et Bertrand Éclair.
Peu de clients à la mi-journée dans ce magasin de chaussures pour hommes situé dans le centre d'Istanbul. Le boycott, nous dit le vendeur, se fait nettement sentir.
Normalement, à cette heure-là, on aurait dû avoir au moins 80 ou 90 clients. Mais là, on a vu 20 personnes, même pas. Ça nous impacte énormément.
Cette journée de boycott vise les magasins, les restaurants et toutes les transactions en ligne. Un moyen de pression supplémentaire aux yeux de cet étudiant de l'université d'Istanbul.
C'est un mouvement initié par les étudiants, mais qui est étendu à toute la population. L'objectif est de montrer à quel point nous sommes forts lorsque nous sommes unis.
Mais pour les partisans du président Erdogan, le boycott est perçu comme une action déloyale à l'égard de la Turquie. En témoigne ce vendeur de confiserie, bras croisés devant sa boutique.
Vraiment, ce boycott est une perte d'argent et je ne suis pas d'accord. Ils pensent qu'ils nous font du tort avec ce boycott, mais ils se font du tort à eux aussi. Tout le monde en souffre, n'est-ce pas ?
Tout le monde en souffre, l'argument est déjà repris par les autorités qui accusent l'opposition par calcul politique de mettre en péril l'économie du pays. Bertrand Éclair, Daniel Valo, Istanbul RFI.
De Istanbul à Paris, il est 20h, bientôt 11 minutes dans la capitale française. Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du soir avec Christophe Paget sur RFI. On en vient, Christophe, à l'actualité française. Et voilà, le Rassemblement national satisfait puisque la justice a indiqué que le procès en appel demandé par Marine Le Pen, eh bien, se tiendrait bien l'an prochain.
Oui, ce qui lui laisse éventuellement une porte ouverte pour la présidentielle de 2027. Cette accélération du calendrier judiciaire intervient après plusieurs appels à organiser rapidement un nouveau procès, notamment un appel du garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Rappelons que la chef de file de l'extrême droite a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, et 5 années d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Marine Le Pen qui, en fait, engage une riposte sur deux fronts. L'une judiciaire, avec ce procès en appel, l'autre politique, avec un appel à une grande mobilisation populaire. Et c'est une stratégie qui comporte quelques risques. Raphaël Delvolvé.
Si l'annonce rapide d'un nouveau procès est accueillie comme une bonne nouvelle au RN, tout cela ne pourrait en fait que retarder une nouvelle désillusion aux conséquences cette fois irréversibles. Marine Le Pen fait le pari d'un nouveau jugement plus clément, ne retenant pas par exemple la fameuse exécution provisoire. La stratégie de défense désavouée en première instance sera déterminante. Une peine confirmée, voire alourdie, l'écarterait définitivement d'une course qui, à l'été 2026, entrera dans le dur. Entre-temps, l'image du RN pourrait s'écorner. Depuis lundi, à rebours du ton policé de ces dernières années, le parti se distingue par des charges particulièrement virulentes contre la justice, accusée notamment d'être politisée. Et si Marine Le Pen condamne les menaces proférées contre les magistrats, elle en appelle à la rue dès ce dimanche avec un grand meeting à Paris sous la bannière « Sauvons la démocratie ». Un test de popularité, mais aussi de la capacité du Rassemblement national à se rassembler sans violence. Marine Le Pen se veut combative, mais prend là un double risque d'être désavouée par la justice et voir sa stratégie de normalisation voler en éclats.
Et les réactions à la condamnation de Marine Le Pen continuent à faire réagir jusqu'au sommet de l'État. En Conseil des ministres ce matin, Emmanuel Macron a rappelé que l'autorité judiciaire était indépendante, que la justice devait être protégée, alors que, on l'a dit, le Rassemblement national organise un rassemblement de soutien dimanche et que les cadres du parti dénoncent toujours un jugement politique. Des attaques qui visent à discréditer le jugement et que dénonce Ludovic Fria, président de l'USM, l'Union syndicale des magistrats, le syndicat majoritaire de la profession.
On entend le hold-up des juges, la dictature des juges qui veulent imposer aux politiques leur façon de voir. On peut décrypter les choses complètement différemment. On peut se dire, est-ce que c'est pas plutôt certains politiques qui veulent dicter à l'autorité judiciaire qui est indépendante sa façon de juger ? On a une espèce d'inversion des valeurs, à savoir on vient discuter la décision qui a été rendue, sous un angle nécessairement partisan, ce qui évite de reconnaître qu'à un moment donné, on a pu avoir une pratique politique qui n'était pas conforme aux lois votées. Parce que, il faut le dire, le juge ne fait pas la loi. Le juge, lui, applique la loi. Cette loi a été votée par les parlementaires et on peut pas dire au juge « je ne supporte pas que vous m'appliquiez une loi que j'ai moi-même votée », faisant cyniquement semblant de ne pas se rappeler que cette loi, elle procède du Parlement et des élus.
Le président de l'USM, Ludovic Fria, la juge qui a condamné Marine Le Pen et les 23 autres prévenus, a été placée sous escorte policière après des menaces, notamment des menaces de mort, proférées à son encontre sur les réseaux sociaux. Une enquête a été ouverte hier.
Et puis vous les avez tous vus, ces films, j'en suis persuadé, Christophe Pagé, Top Gun, Les Doors, Heat, Willow, Top Secret. On a appris ce mercredi la mort de Val Kilmer d'une pneumonie à l'âge de 65 ans.
Depuis 2014, l'acteur américain avait quasiment quitté les plateaux de tournage, diminué par un cancer de la gorge qui l'avait privé en grande partie de sa voix. Val Kilmer qui le disait lui-même, j'ai joué dans quelques films importants et magnifiques et j'ai connu beaucoup de succès, mais je n'ai jamais consolidé ce statut. À Los Angeles, Loïc Piala.
Sa carrière démarre en musique dans Top Secret, parodie de films d'espionnage. Val Kilmer y fait le pitre, pas vraiment ce qu'il a appris à Juilliard, prestigieuse école de théâtre à New York. You could be my wingman anytime. Beau gosse, charismatique, il se fait vite un nom dans les années 80, face à Tom Cruise dans Top Gun et dans The Doors. Sa personnalité excentrique colle à celle de Jim Morrison. Il brille surtout dans des seconds rôles comme Doc Holliday dans le western Tombstone, True Romance ou Hit. Il est aussi en tête d'affiche du Saint ou Batman Forever au milieu des années 90. Until one terrible morning you wake up and realize that revenge has become your whole life. Mais sa réputation de diva n'aide pas sa carrière. Le tournage de L'île du docteur Moreau aux côtés de Marlon Brando, autre acteur difficile, vire au cauchemar pour l'équipe du film.
My name is Val Kilmer. I'm an actor.
Grand fan de Mark Twain, Val Kilmer n'est jamais totalement entré dans le moule hollywoodien, il le reconnaît. Dans le documentaire Val, où son fils lui prête sa voix, l'acteur ne peut presque plus parler à cause d'un cancer à la gorge. Cela n'empêche pas Tom Cruise de le retrouver dans Maverick, la suite de Top Gun, pour une scène émouvante, sa dernière apparition à l'écran en 2022. Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
Et puis à Paris, le concert Solidarité Congo se tiendra finalement le 22 avril, concert caritatif qui, selon ses organisateurs, doit permettre de soutenir les enfants victimes du conflit dans l'est de la RDC, où les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda combattent l'armée gouvernementale. Le concert devait à l'origine se dérouler le 7 avril, mais c'était aussi la journée internationale de commémoration du génocide au Rwanda. Des associations de la diaspora rwandaise à Paris avaient demandé son report. Et le préfet de Paris avait finalement demandé aux organisateurs le report du concert qui, à défaut, serait annulé.
Et bien voilà qui est noté. On n'oublie pas Afrique Soir dans moins d'un quart d'heure sur RFI. C'était le grand journal du soir, signé Christophe Pagé.
Romain Ozoui.
Allez, 20h, bientôt 17 minutes ici à Paris. Dans quelques instants, on va évoquer les questions qui se posent deux jours après la condamnation de Marine Le Pen, ce qui amenuise ses chances d'être candidate à l'élection présidentielle de 2027. Le débat est vif actuellement sur l'indépendance de la justice en France. Nous appellerons nos collègues du Figaro qui consacrent leur dossier de demain jeudi à cette actualité. Et puis nous irons à Taïwan, où beaucoup de questions se posent après cet investissement massif du géant des semi-conducteurs, ce qui est considéré comme l'assurance vite Taïwan, les semi-conducteurs. 100 milliards de dollars pour l'installation de plusieurs usines de TSMC aux États-Unis, le géant des semi-conducteurs. Reportage à suivre. Mais pour l'heure, voici les sports sur RFI. Bonsoir Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir Romain.
Allez, le foot pour débuter. Et puis cette question qui va rejoindre le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. Est-ce que c'est l'AS Caen? Est-ce que c'est Reims? Eh bien, ce soir, les deux équipes se disputent la dernière place.
Deux anciens lointains vainqueurs de cette compétition, deux clubs au passé glorieux, au présent un peu moins reluisant. Reims, bien sûr, est en Ligue 1 dans les bas-fonds du classement cette saison. Et l'AS Caen, dont les couleurs mythiques rouge et blanc, je rappelle d'ailleurs celle de votre chemise. L'AS Caen est le club formateur de Zinedine Zidane, de Patrick Vieira, de Yoann Mikou. Mais l'AS Caen évolue aujourd'hui en National 2, la quatrième division. Être encore là est un exploit, un petit événement pour les joueurs de la Côte d'Azur et leur entraîneur Damien Hott. Excité mais pas particulièrement stressé par cette demi-finale et la perspective d'aller peut-être défier le PSG au Stade de France.
On est tout à fait serein. Je pense que le club gère bien l'événement. On se disperse pas et on se pollue pas l'esprit avec justement en intervenant tous les jours avec des médias. On est bien concentré sur ce qu'on a à faire. En tout cas, on s'est pas du tout dispersé par rapport à l'événement. Je pense que c'est notre recette depuis le début. Depuis les premiers matchs, on s'est jamais ni enflammé ni dispersé à faire quoi que ce soit. On est simplement heureux de vivre ce qu'on va vivre.
Damien Hott, l'entraîneur de l'AS Caen, qui reçoit donc Reims dans son stade Pierre de Coubertin. Coup d'envoi dans un peu moins de trois quarts d'heure maintenant.
On joue en coupe ailleurs en Europe, encore des demi-finales d'ailleurs, avec de sacrées affiches. Hein.
Stuttgart et RB Leipzig en Allemagne, le vainqueur affrontera la surprise, Arminia Bielefeld en finale. On va crescendo en Italie avec un derby Milan AC Inter, ça se joue en deux manches, la première ce soir. Et puis en Espagne, où le Real Madrid a gagné hier le premier ticket, l'Atlético reçoit le Barça, match retour cette fois. Il y avait eu 4 partout à l'aller à Barcelone. Entre-temps, les deux équipes se sont affrontées en championnat. Victoire 4-2 des Catalans. Ça fait donc 8 buts encaissés en 2 matchs pour l'Atlético. Équipe pourtant réputée solide et qui devra l'être encore plus tout à l'heure. L'entraîneur Diego Simeone.
Le match aller a été disputé, intense, face à un adversaire qui, comme nous l'avons toujours dit, pratique un football extraordinaire, avec une dynamique de jeu incroyable, une grande audace pour attaquer et presser haut. Il est évident qu'ils auront des occasions de but, mais nous devrons avoir une tactique qui puisse leur faire mal, tenter d'exploiter au mieux nos temps forts, tout en annihilant ce potentiel que tout le monde peut voir.
Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, avant ce choc prévu dans une grosse heure maintenant.
En Angleterre, alors, il y a aussi du football, mais ce n'est pas, on fait rien comme les autres. Hein. C'est pas une journée de coupe, c'est une journée de championnat qui est programmée aujourd'hui.
La 30e, et le leader Liverpool peut reprendre ses 12 points d'avance sur Arsenal en cas de victoire dans le derby de la Mersey face à Everton. À suivre aussi la lutte pour le top 5 avec Brighton, Aston Villa, Manchester City, Leicester et Newcastle, Brentford.
On termine avec un mot de cyclisme parce que c'était la dernière répétition avant le Tour des Flandres dimanche prochain. L'Américain Nelson Peles a remporté à travers les Flandres aujourd'hui.
De manière assez incroyable, à 70 km de l'arrivée, Peles a suivi une attaque de l'équipe Visma. Il s'est retrouvé en tête avec 3 coureurs de l'armada jaune et noir, avec notamment le vainqueur sortant Jorgensen, avec aussi l'un des favoris Wout Van Aert. 3 contre 1, impossible de perdre normalement, et pourtant les Visma se sont complètement ratés. Ils ont attendu le sprint pour essayer de régler le cas Paulès, mais l'Américain s'est tout simplement montré le plus rapide.
Et je sais que vous suivrez de très près évidemment ce Tour des Flandres, Thomas de Saint-Léger. Merci beaucoup, il est 20h21 ici à Paris. En France, l'actualité reste dominée ce soir par le sort de Marine Le Pen, 2 jours après sa condamnation et son inéligibilité pour 5 années, ce qui pourrait l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Bonsoir Yves Tréhard.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
On a appris hier soir que la Cour d'appel de Paris envisageait un second procès Le Pen, suite à l'appel évidemment formulé par la chef de file des députés du Rassemblement National, avec une décision à l'été 2026, qui ouvrirait une fenêtre pour une candidature à la présidentielle. Il n'empêche, il y a la question de Jordan Bardella qui est pressante, hein, le président du Rassemblement National qui est également pressenti. Comment ce duo, Le Pen-Bardella, avance-t-il depuis le choc de la condamnation ?
Alors, il y a 2 choses qui faut considérer. C'est la première, c'est que Marine Le Pen est fermement décidée à rester avec son rôle de leader. En rien, elle n'entend laisser se mettre en marge. Marine Le Pen reste candidate et elle l'a fait savoir dans plusieurs interventions publiques en disant que c'était elle qui était candidate à la présidentielle. Et évidemment, dans ce contexte-là, il faut que Jordan Bardella arrive à trouver sa place et néanmoins à se préparer au cas où, parce que rien ne dit que la Cour d'appel ne confirme pas, ou infirme plutôt, le jugement de première instance. Et puis, il y a aussi, je dirais, tout l'entourage et toute la nomenclatura du parti. Est-ce que cette nomenclatura marche comme un seul homme derrière Jordan Bardella ? Je pense notamment à Marion Maréchal. Ben, c'est toute la question. Et c'est toute la question de l'enquête que nous menons au cœur du Rassemblement National dans le journal de demain, grâce à Paul Lobaché, qui connaît par cœur les us et les coutumes du parti. Évidemment, ça va être très compliqué de jouer ce tandem comme si de rien n'était pendant un an.
Il y a un autre sujet qui est lié évidemment à cette actualité Marine Le Pen, ce sont les critiques et les réactions à ces critiques formulées à propos de la justice. Aujourd'hui, le président Emmanuel Macron et son premier ministre François Bayrou ont apporté un soutien ferme à l'indépendance de la justice, parce qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent suite à la condamnation de Marine Le Pen.
Effectivement, il y a dans le personnel politique, il y a énormément de personnalités, de leaders qui disent on s'en prend pas à la justice comme ça, on peut critiquer une décision de justice, mais on n'a pas le droit de s'en prendre à la justice globalement en parlant de la tyrannie des juges, en parlant d'une justice, d'un système qui serait un rouleau compresseur contre le Rassemblement national. Enfin, on voit que les vieux travers du Rassemblement national, dont s'était départie d'ailleurs Madame Le Pen ces dernières années, eh ben reviennent en force. Le naturel revient au galop. Alors ça, c'est une première chose. Et puis il y a une deuxième chose. Il y a quand même, néanmoins, plusieurs voix qui disent que la loi va peut-être trop loin, notamment pour l'exécution provisoire, ce qui rend la décision immédiatement applicable. Et notamment Gérard Larcher, dans un entretien avec Emmanuel Goliero, notre journaliste qui s'occupe du Sénat, le président du Sénat dit que le législateur doit pouvoir corriger une loi quand elle va trop loin. Et il estime, lui, que par exemple, l'exécution provisoire n'est peut-être pas adaptée, qu'il faudrait peut-être revenir dessus.
Eh bien, dossier consacré donc évidemment à Marine Le Pen et toutes les questions que soulève sa condamnation il y a deux jours pour détournement de fonds publics, à retrouver dans le Figaro ce jeudi et évidemment sur votre site internet également. Merci beaucoup Yves Tréhard.
Merci Romain, merci à tous.
Pékin et Taïwan avancent-ils chacun leur pion en vue d'une possible future confrontation? En tout cas, ce mercredi, la Chine a affirmé avoir atteint ses objectifs à l'issue de deux journées de grandes manœuvres militaires. Et Taïwan, de son côté, eh bien, joue la carte de l'économie, puisque cinq usines dernière génération de l'entreprise TSMC devraient être construites aux États-Unis. TSMC, il faut savoir que c'est le géant des semi-conducteurs, et c'est une opération qui se chiffre, tenez-vous bien, à 100 milliards de dollars. Et à travers elle, selon certains, eh bien, c'est le soutien militaire américain contre la Chine qui pourrait être garanti. Mais cette concession au président Donald Trump met-elle en danger la sécurité de Taïwan? Élément de réponse à présent avec ce reportage signé Nicolas Roca.
Au Li Fai-yuan, le Parlement taïwanais, les débats autour des 100 milliards de dollars d'investissement de TSMC aux États-Unis sont houleux. Depuis l'annonce effectuée début mars à la Maison-Blanche, l'opposition est vent debout. Chan Su, directeur adjoint des affaires internationales du Kuomintang.
La plupart des Taïwanais sont inquiets que cet investissement puisse nous priver de l'avantage dont on dispose dans le domaine des semi-conducteurs de dernière génération et que ce genre d'investissement porte atteinte à la sécurité nationale.
Si Donald Trump, qui a longtemps accusé Taïwan de voler le marché des semi-conducteurs, n'a plus besoin des puces taïwanaises, alors pourquoi défendrait-il l'île? Réponse dans les couloirs de l'Assemblée de Robert Tsao, milliardaire, créateur d'UMC, une autre entreprise de semi-conducteurs.
L'investissement de TSMC a été fait à l'invitation de Donald Trump. C'est un signe très positif pour consolider la relation entre Taïwan et les États-Unis.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir les technologies les plus avancées quitter Taïwan pour les États-Unis?
Non, cela va rester dans l'entreprise. N'importe quel développement aux États-Unis peut être utilisé à Taïwan. Tout cela va rester à Taïwan. C'est du n'importe quoi.
Au cœur des débats, les dernières générations de puces, le gouvernement taïwanais a assuré qu'elles ne seraient pas produites aux États-Unis. Pour l'instant, elles sont surtout manufacturées dans le grand parc industriel de Hsinchu, à une heure au sud de Taipei, la capitale. C'est là qu'est né le géant des semi-conducteurs, TSMC. Ces puces qui permettent à nos téléphones, ordinateurs et voitures de fonctionner sont fabriquées dans d'immenses usines frappées du logo rouge de l'entreprise taïwanaise. Un chantier permanent. À chaque nouvelle génération de puces, une nouvelle usine voit le jour. L'entreprise a accepté de nous accueillir dans son musée, mais ne répond pas à nos questions et interdit tout enregistrement sonore à l'intérieur. Alors pour briser ce culte du secret, il faut se tourner vers les anciens employés.
Ces puces vont être très proches technologiquement de celles produites à Taïwan. Taïwan commencera sûrement la production avant, mais cela prendra peu de temps pour transférer la production aux États-Unis.
Conrad Yong est un ancien directeur de la recherche et du développement à TSMC.
En un sens, cela réduit l'effet de protection du bouclier. Mais est-ce que TSMC veut être un bouclier? Je ne sais pas.
Avec 40 000 emplois bientôt créés aux États-Unis, TSMC a au moins offert à Donald Trump un argument de poids pour défendre Taïwan auprès de ses électeurs. Nicolas Roca de retour de Hsinchu, RFI.
Allez, 18h28 en temps universel. Dans un peu plus d'une minute, ce sera la première édition d'Afrique Soir, votre session d'info. Évidemment, elle se poursuit pendant encore 1h30 sur RFI. Et à la une d'Afrique Soir ce soir, Donald Trump qui nomme un conseiller Afrique. Il s'agit de Massad Boulos, homme d'affaires libano-américain qui était déjà conseiller sur le Moyen-Orient et les pays arabes. Ses fonctions sont élargies. Ne bougez pas, on revient dans une minute sur RFI pour la première édition d'Afrique Soir de ce mercredi.
Appelez-nous, exprimez-vous.
Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et sur WhatsApp 33 6 89 28 53 64.
Retrouvez dès demain Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème de demain.
Enquête sur les dérives de l'enseignement supérieur privé, quand la course au rendement financier de grands groupes efface la mission d'éducation d'une jeunesse. Quelle régulation, quel contrôle des autorités?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.